propose de continuer sur ce texte qui nous a été lu de Luc chapitre 22. Il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce texte et on voit notre Seigneur Jésus qui est à Gethsémani. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est Jésus dans un autre évangile, dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu nous dit que Jésus était dans l'angoisse du combat. Alors, Jésus a su ce qu'était l'angoisse. Il a été angoissé. Devant la croix, Jésus est angoissé. Et c'est vrai que quelquefois, nous pouvons, devant des difficultés, des épreuves aussi, avoir peur, être dans l'angoisse. Ça nous arrive. Mais ce qui nous encourage, c'est de voir que Jésus n'a pas pris sa décision en fonction de son angoisse, mais il a pris sa décision en fonction de quoi ? En fonction de la volonté de Dieu. Hein ? Jésus dit, « S'il est possible, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors la peur, l'angoisse n'est pas un péché. Hein ? Mais le Seigneur nous invite à prendre nos décisions, non pas en fonction de nos sentiments, non pas en fonction de nos peurs, mais en fonction de la volonté de Dieu. Et Jésus donc a renoncé à lui-même, il a renoncé à son confort personnel, il a renoncé à son confort pour faire la volonté de Dieu. Et en cela, eh bien, Jésus est un exemple pour nous. Vous savez, la croix a deux faces. La croix a deux faces, elle a toujours deux faces. Si vous la coupez en deux, comme ça, là, verticalement, eh bien, vous avez encore deux faces. Vous ne pouvez pas séparer les deux faces. Alors, il y a une face de la croix, c'est, on la trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, si vous voulez, on peut le lire. 1 Pierre 3, verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà une face de la croix, d'accord ? Christ est mort pour nos péchés, lui le juste pour les péchés, lui juste pour des injustes. Dans quel but ? Nous amener dans une relation personnelle avec Dieu. Oui, c'est ça le salut. Salut, c'est pas une place au ciel pour plus tard. C'est aussi ça. Hein? Mais c'est d'abord et avant tout une relation personnelle avec Dieu le Père. Hein? Nous amener dans une relation. Il nous a amenés à Dieu. Christ a souffert pour nous. On aime bien ça. On est content. Merci Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Hein? On est heureux de retrouver cette relation avec Dieu qu'on avait perdue à cause du péché. Alors ça, c'est une des conséquences de la croix. C'est une des faces de la croix. Mais il y en a une autre. Il y en a une autre et elle se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2. Elle se trouve au chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 21. Et l'apôtre Pierre dit, c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi ? À quoi est-ce qu'on a été ? Quel est notre appel à nous, chrétiens ? Hein ? Alors, faut lire le verset d'avant. Si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est bien, si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honnête, si vous êtes fidèle à Dieu et que parce que vous lui êtes fidèle, alors on vous fait souffrir, eh bien, c'est une grâce devant Dieu. Certaines traductions disent c'est un privilège devant Dieu. Nous nous considérons souvent comme les privilégiés. Hein? On dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on est privilégié par rapport à ses frères et ses sœurs qui souffrent pour le bon nom de Jésus. Et la Bible nous dit, C'est un privilège devant Dieu. Alors, quelquefois, j'aime dire, je vais vous parler des privilégiés. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Donc la deuxième phase de la croix, c'est Jésus qui a souffert pour nous donner un exemple, pour nous donner un modèle, pour que nous suivions ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, voilà son exemple. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est là qu'il est notre modèle. Hein? Nous n'avons pas à souffrir pour porter les péchés. Hein? C'est Jésus, son œuvre est parfaite, elle est complète. Il a pris sur lui nos péchés, ce n'est pas à nous à le faire. Hein? Mais là, le modèle, l'exemple qu'il nous donne, le voilà. Injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors vous voyez, ce sont là les deux faces de la croix. Et ce qu'on voit, c'est que dans cet épître de Pierre, et le chapitre 2 vient en général avant le chapitre 3, et que la première chose que Pierre nous dit sur ces deux faces de la croix, la première, qu'est-ce qu'il met en premier ? Hein ? Il ne met pas en premier « Christ est mort pour nos péchés », il met en premier « Christ, notre modèle ». Hein ? Et après, au chapitre 3, il nous dit « Christ est mort pour nos péchés ». Alors, vous ne pouvez pas prendre la croix à moitié. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre la moitié. Même si vous l'avez coupée en deux, il reste toujours deux faces. Hein ? Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez jamais séparer le recto et le verso. Alors, quand on prend la croix, on prend les deux côtés. Vous ne pouvez pas prendre un côté sans prendre l'autre. Vous ne pouvez pas dire « Jésus est mort pour mes péchés » et puis non. Et puis, comme modèle, comme exemple, ben non, ça j'en veux pas, je le laisse aux autres. Hein. Non, c'est pas possible. Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle. Et il arrive quelquefois que quand nous faisons le bien, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous lui sommes fidèles, eh bien, quelquefois, ça ne plaît pas à certaines personnes qui se mettent à s'opposer et à résister à l'Évangile et même à attaquer hein, ceux qui marchent fidèlement. Et c'est ce que la première épître de Pierre nous montre. Hein. Elle nous montre plusieurs causes de persécution et elle nous montre bien que la persécution et la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Il ne faut pas croire que c'est anormal si nous souffrons pour le bon nom de Jésus. Hein. Je ne vous encourage pas à faire n'importe quoi. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous savez, à portes ouvertes, on fait pas n'importe quoi. Hein. Le Seigneur Jésus nous a dit d'être rusés comme des serpents et sages, prudents comme des colombes. Hein. Alors on ne va pas en Corée du Nord comme on va en Mauritanie ou au Maroc ou en Libye. Non, on adapte chaque fois notre travail en fonction du pays, en fonction des risques, en fonction des difficultés et en fonction de ce que le Seigneur nous montre. Hein. Mais il nous faut être sages et prudents, mais ne croyez pas que la souffrance ne fait pas partie de la vie chrétienne. Si on regarde bien, on voit que Jésus a préparé ses disciples hein, à cela. Il leur a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Hein. Le Seigneur a vraiment préparé ses disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez bien, tous les disciples, à part Judas, hein, mais tous les autres, les 11 disciples, ont donné leur vie pour Jésus. Pierre, la Bible nous dit que Jean était exilé sur l'île de Patmos, c'est là où il a écrit l'Apocalypse. Et la Bible, dans Actes chapitre 12, nous montre que Jacques a été décapité, tué par Hérode, hein, et tous les autres disciples sont terminés en martyrs. Et Pierre a été crucifié, on dit la tête en bas, je n'en sais rien, mais en tout cas il est mort aussi en martyr. Et ça, c'est vrai que, vous savez, Satan fait une œuvre qui le trompe. Hein. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts en martyrs. Eh bien, il y a quelque chose qui nous encourage. Eh bien, c'est que à la résurrection, les disciples ont dit « Jésus est ressuscité hein ». Et ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est un fait, c'est pas une idéologie. D'accord? C'est un fait. Alors, un fait, il est vrai ou il est faux? Donc, il y a deux solutions. Soit il est faux, donc dans ce cas-là, ça veut dire que les disciples sont venus et ont piqué le corps de Jésus. Hein? Soit c'est vrai, Jésus est vraiment ressuscité. Alors, prenons l'hypothèse où les disciples sont venus et ont piqué, pris le corps de Jésus et l'ont caché. Hein? Alors, ça voudrait dire qu'ils ont proclamé que Jésus est ressuscité et tout en sachant que c'est un mensonge. Alors, est-ce qu'on meurt pour un mensonge? On peut mourir pour une idéologie, croire que c'est vrai. Hein? Mais mourir pour un mensonge, ça, je pense que sous la pression du martyr, il y en aurait bien un qui aurait crié « Oui, 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 c'est vrai, c'est moi qui l'ai piqué. Hein? Non, ne me faites rien, j'ai menti. Hein? » Mais ils ont tous été jusqu'au bout. Ils ont tous dit « Oui, c'est vrai ». Et à cause de la vérité, ils étaient prêts à donner leur vie. Alors, est-ce qu'on a besoin de preuves pour la résurrection? Je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, Dieu, dans sa sagesse infinie, nous donne une preuve supplémentaire. C'est vrai, nous avons la Bible, hein? Nous la croyons, d'accord? Mais Dieu nous donne encore une preuve supplémentaire du fait que ce ne sont pas les disciples qui ont piqué le corps du Seigneur, mais que Jésus est vraiment ressuscité. Et les disciples sont morts en martyrs, non pas pour avoir dit que Jésus a été crucifié, mais pour avoir dit qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Parce que des crucifiés, il y en a eu beaucoup. Hein, il n'y a pas eu que lui. Et d'abord, ils étaient trois déjà. Hein. Il y avait deux malfaiteurs, à droite et à gauche. Mais ils ont été donné leur vie pour cette vérité que Jésus est mort et est ressuscité. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, le Seigneur, en préparant ses disciples qui n'ont pas toujours compris ce que Jésus leur disait, c'est vrai, et nous aussi, on ne comprend pas toujours, hein, mais le Seigneur leur dit dans Matthieu, chapitre 16, quand il prépare ses disciples, hein, ils ont passé 3 ans avec Jésus, et c'est vrai que vous retrouvez l'enseignement de Jésus, vous le retrouvez chez Paul, vous le retrouvez chez Pierre, vous le retrouvez chez Jean, vous le retrouvez partout. Dans Matthieu, chapitre 16, Jésus, verset 21, commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus leur le prépare, leur dit voilà, hein, voilà ce qui va se passer, je vais souffrir. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est très important. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit d'aller faire des disciples. Alors, si nous voulons faire des disciples, il faut mieux que nous-mêmes, on soit un disciple. Et pour être un disciple, il vaut mieux comprendre ce que c'est que d'être un disciple. Hein? Si vous voulez former un boulanger, il vaut mieux que vous soyez boulanger vous-même. Parce que sinon, si vous essayez de former un boulanger et que vous ne savez pas comment on fait le pain, vous allez avoir difficultés. Hein? Donc, il nous faut nous-mêmes être un disciple. Et pour être un disciple, il nous faut comprendre ce que ça veut dire. Et Jésus n'a pas dit... Voilà, si vous êtes en France, alors les conditions pour être un disciple, c'est ta 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 ta. Mais si vous êtes en Libye, alors, pour être un disciple, alors c'est différent. Non, Jésus nous dit la même chose. Et ce message, il est le même pour nos frères et sœurs au Soudan, pour nos frères et sœurs en Corée du Nord, pour nous ici. Et vous savez que on peut, il n'y a pas que dans ces pays là-bas qu'on peut être martyr pour sa foi. Il y a quelqu'un qui a vécu l'évangile de manière radicale, qui l'a mis en pratique, et qui a été jusqu'au bout dans son engagement et dans sa foi, et qui est mort en martyr pour sa foi. C'était aux États-Unis, Martin Luther King, un homme qui, dans son dernier message, a dit « J'ai vu la terre promise. » Tout ce que j'ai lu sur lui m'a vraiment encouragé. J'ai vu un homme de foi, un homme engagé dans sa foi, qui l'a mis en pratique jusqu'au bout. Alors, Jésus, chaque mot dans ce verset est important. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. Et là, chaque mot est important. Si. Jésus ne force personne. Parce que l'amour a besoin de la liberté pour s'exprimer. Donc Jésus ne nous force pas. Mais il nous dit, si. Si notre amour pour lui va jusqu'à vouloir le suivre. Hein? Si quelqu'un, c'est individuel, c'est chacun, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, là où nous sommes, veut. Ah, Jésus ne s'adresse pas à nos sentiments, hein, parce qu'il sait que nos sentiments, ils sont comme ça. Hein, on dit Pentecôte, Pentecôte. Bah, si quelqu'un veut, Jésus s'adresse à notre volonté, c'est-à-dire que c'est une décision à prendre aujourd'hui, que nous pouvons prendre. Nous pouvons dire, oui Seigneur, je veux me décider pour te suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, voilà le challenge, suivre Jésus, suivre le chemin qu'il nous a tracé. Alors Jésus nous donne les conditions. Il nous dit, voilà, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quand j'étais jeune, j'étais dans une église où on m'avait appris que renoncer à soi-même, c'était renoncer à la télévision, renoncer à la radio, renoncer à aller au cinéma, aller au théâtre, et à lire le journal et tout ça. Enfin, tout ce qui était artistique, là, c'était le monde, et il fallait oublier, hein, fallait renoncer au monde, fallait renoncer à toutes ces choses. Puis je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Parce que je voyais des chrétiens fidèles, engagés, hein, qui n'était pas sous ce joug légaliste, hein, et qui usait de ces choses avec liberté, mais sans en abuser. Hein. Et ça ne les empêchait pas d'être des chrétiens engagés qui aimaient le Seigneur. Je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Ah, je me suis dit, oui, mais bon, si ce n'est pas ça, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et je crois que c'est dans la relation avec le Seigneur que nous pouvons découvrir ce que c'est vraiment, et que le Seigneur a une parole pour chacun de nous, pour nous montrer à quoi nous devons renoncer pour le suivre. Renoncer pour certains, il nous faut renoncer à cette vision, je crois pour chacun, il nous faut renoncer à cette vision de moi au centre, je cherche mon petit confort, et Dieu est là pour moi, pour mon petit confort, il va me guérir, me bénir, me faire du bien. C'est vrai que Dieu veut nous faire du bien. C'est vrai que Dieu nous aime, hein? Mais est-ce que c'est toujours centré sur moi? Est-ce que mon christianisme, il est toujours centré sur moi? Ou est-ce que c'est Dieu qui est au centre et moi qui suis là pour le servir, pour lui? Est-ce que je suis là pour lui? Est-ce que c'est lui qui est au centre de ma vie? Ou est-ce que c'est toujours moi, moi, moi? Oui, renoncer à cette vision d'un Dieu qui est là pour moi, mais au contraire, changer, se convertir, le mettre, lui, au centre de ma vie, et dire, oui, Seigneur, c'est toi le maître, c'est moi le serviteur, et je suis là pour ta gloire, je suis là pour te servir, je suis là pour être un témoin pour toi, là où tu m'as placé. Et je veux être cette lumière qui brille dans ce monde, je veux être le sel de la terre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Eh bien, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce que Jésus a fait à la croix, c'est quand ma volonté croise celle de Dieu. Quand Jésus à la croix, à Gethsémané, dit, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, hein, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là, à ce moment-là, que nous devons prendre notre croix, nous charger de notre croix, nous charger de notre croix chaque jour. C'est simplement être fidèle au Seigneur, quelles que soient les conséquences. C'est de lui dire, oui Seigneur, je veux t'obéir et je ne regarde pas les conséquences, mais je regarde à toi. Je veux faire ta volonté, même si ça implique de passer par la souffrance. Le problème, c'est que bien souvent, nous voulons éviter la souffrance à tout prix. Et c'est ça qui n'est pas juste. C'est pas juste non plus de rechercher la souffrance. C'est pas juste non plus. Quelquefois, certains humanistes ou athées disent « Oh, les chrétiens, ils aiment souffrir ». Non, c'est pas vrai. Nous aimons Jésus, mais pas, nous n'aimons pas la souffrance. Mais accepter simplement de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix. Et Jésus dit « Et qu'ils me suivent ». Il y a une joie particulière à suivre Jésus. On la retrouve encore dans l'épître de Pierre, au chapitre 4. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. On peut commencer déjà au verset 12. Bien-aimé, dit l'apôtre Pierre. Il écrit pour encourager des chrétiens qui passent justement par la souffrance, par la persécution, par la difficulté. Il a dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Certaines traductions disent l'onction de gloire. C'est l'onction de Pékin, c'est l'onction de Téhéran, l'onction de Pyongyang, l'onction du Pakistan. J'étais un jour assis à côté d'un frère qui a passé 3 ans au Pakistan dans le couloir des condamnés à mort. Il était accusé de blasphème contre le prophète. Vous savez, le Pakistan, c'est un pays qui a adopté les lois de blasphème. Donc, si vous êtes simplement accusé de blasphème contre le prophète, eh bien, vous pouvez être condamné à mort. Voilà la peine qui est donnée. Alors, il a passé 3 ans dans le couloir des condamnés à mort. Et puis, il a été libéré. Il a reçu 250 000 cartes et lettres de chrétiens du monde entier qui lui ont écrit. Et il a dit que combien ça l'avait encouragé. Et je vous encourage à écrire à ses frères et sœurs qui sont persécutés. Vous avez dans le magazine Portes Ouvertes, vous avez un calendrier de prière, mais vous avez aussi l'adresse de quelqu'un à qui vous pouvez écrire. Eh bien, rien que le fait d'être assis à côté de lui, j'avais l'impression d'être sale. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de différent entre lui et moi. Et c'est vrai qu'on voit cet esprit de gloire, cet esprit de Dieu qui repose sur ses frères et sœurs. Et c'est encourageant. Ça nous encourage. L'Église persécutée a plein de choses à nous apprendre pour fortifier notre foi. Eux, ils ont besoin de nous. C'est vrai, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on aille leur porter des Bibles. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. Ils ont besoin qu'on aille faire des formations bibliques là-bas. On ne peut pas tous aller, mais on peut tous prier. On peut tous être encouragés à la prière, s'informer et prier pour nos frères et sœurs. Hein. Mais eux aussi, ce n'est pas un sens unique. Eux aussi ont beaucoup de choses à nous apporter et pour nous encourager à vivre notre foi pleinement pour Jésus. Alors, que le Seigneur nous encourage à vivre pour Jésus. L'ennemi est le même. L'ennemi, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les communistes, ce ne sont pas les humanistes. L'ennemi, hein, vous le connaissez, c'est Satan. L'apôtre Pierre le dit dans son chapitre 5. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Alors, que ce soit par la persécution ou par la séduction, eh bien, l'ennemi cherche toujours à nous empêcher de lire notre Bible, il cherche toujours à nous empêcher de servir le Seigneur, d'être un témoin pour lui. Ça, il ne supporte pas, il passe 24 heures, il est 24 heures sur 24 en train d'essayer de détruire l'Église. Si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne suivez pas le Seigneur, il va pas vous embêter, il va vous laisser tranquille. Hein. Mais dès que vous commencez à vouloir suivre Jésus, eh bien ça, il va vous poursuivre. Persécuter, ça veut dire poursuivi. Hein. Alors l'apôtre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà ce que Dieu veut produire en nous, une foi qui soit inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.